endroit où j'allais, je veux lire un verset. Est-ce qu'il y a des gens riches ici? Ok. 2 Corinthiens 8, 9. Nous avons parlé beaucoup de régner dans la vie. Un verset que je pense qu'on a besoin de méditer, déclarer, manger, dormir avec, rêver, jusqu'à ce que ça devienne réalité dans notre vie. 2 Corinthiens 8, 9 dit ceci, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si je vous demanderais qu'est-ce que c'est une définition de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous répondrez? Je vous donne le verset ici. Il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre du riche qu'il était. Pourquoi? Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Mes amis, si vous aimerez, si vous désirez, si vous croyez que c'est la volonté de Dieu que vous devenez riche, commencez à le dire. Commencez à dire. Ouais, chaque fois que vous en pensez de vos finances, de votre travail, de vos besoins, dites, il s'est fait pauvre pour que moi je puisse être riche. Et il s'est fait pauvre, donc je suis riche. Ouais. Vous n'arriverez jamais à dépasser votre déclaration. Si vous êtes toujours en train de dire, j'ai jamais assez pour terminer le mois, je peux jamais me permettre ceci, je peux jamais, pourquoi j'ai tellement de problèmes matériels, vous allez y rester. Mais si vous commencez à déclarer la parole de Dieu, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie même en abondance. Abondance, ça ne veut pas dire juste que je rejoins les deux bouts du mois. Dieu veut que vous soyez riches, mes amis. Amen. C'est la volonté de Dieu et vous savez, chacun de nous, nous avons été limités, nous avons été contraints, nous avons été empêchés de faire des choses par faute d'argent, faute de finances, n'est-ce pas? Disons la vérité. Donc, regardons cette vérité en face et commençons à voir la réalité de Dieu, la vérité éternelle, c'est que Jésus s'est fait pauvre sur la croix. Ouais, je ne sais pas si vous réalisez, mais on a pris tous ses vêtements. Il n'avait plus rien, chose matérielle où il restait, ouais, quand il était cloué à la croix, il s'est devenu pauvre pour que vous puissiez être riche. Donc, commence à le dire, je suis riche en Jésus-Christ. Nous sommes riches spirituellement, oui. Nous sommes riches physiquement, oui. Nous sommes riches émotionnellement, oui. Mais Dieu veut qu'on soit riche matériellement parce qu'il y a un monde à gagner. Il y a des gens à aider. Chaque fois qu'on voit la misère des autres et nous disant, si seulement j'avais... Oui, mais Dieu ne veut pas que vous dites ça. Il faut que vous commencez à dire, j'ai toujours quelque chose pour donner à toute bonne œuvre. Je peux toujours faire des libéralités. Je suis un homme ou une femme généreuse. Commencez à le dire. Changez votre déclaration, mes amis. Amen. Ça va changer votre vie. Accordez-vous avec Dieu. Il va assurer que ça devient réalité dans votre vie. Ça va se manifester. Pas de tout le message que j'ai pour vous aujourd'hui, mais c'est le message de Dieu pour chacun de nous. Amen. Moi, je suis convaincu de ça. Dieu désire que chaque personne qui vient dans cette église devienne riche. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde à gagner. Pourquoi? Parce que nous avons chacun reçu de la part de Dieu quelque chose à faire et il va falloir de l'argent. Tu peux avoir toute la bonne volonté, toute la santé du monde, mais si vous n'avez pas les finances, vous allez rester chez vous. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Prions que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation ce matin. Seigneur, merci pour cette prière que Paul a faite pour les Éphésiens et que nous prions pour nous-mêmes. Que tu ouvres les yeux de nos cœurs, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Père, nous voulons comprendre ces Écritures, nous voulons les vivre. Père, je te remercie pour ce message que tu as mis dans mon cœur et je te remercie que ça va pénétrer le cœur de chaque personne ici présent et ça va changer nos vies. Et Seigneur, je suis convaincu que si ça change nos vies, ça va changer nos familles. Et si ça change nos familles, ça va changer nos villes. Et si on change nos villes, on va changer nos nations. Merci, Père. Amen. Et amen. Lisons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 27. Je vais parler du troisième jour. Matthieu 27, et on va commencer verset 35. En cas que vous n'avez pas lu cette histoire dernièrement, nous allons le lire. À travers le monde, donc dans beaucoup de pays, vendredi, c'est un jour férié. Ouais, on appelle ça vendredi saint. Beaucoup de gens s'arrêtent, beaucoup d'églises ont des... On ne peut pas les appeler les célébrations parce qu'ils ne fêtent pas, ouais, mais ils ont des moments de recueillement, ouais, où ils relient les Écritures, où ils prient, où ils cherchent Dieu, pensant à la passion de Christ. Amen. Il dit, verset 35, et on va voir plusieurs versets. Donc, si vous suivez avec moi. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Il est mon roi aussi. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtisses en 3 jours, » tout le monde dit 3 jours, « Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres. » Et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre. Maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Je ne sais pas si on réalisait le poids de ces insultes. Les brigands crucifiés avec lui insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure, donc qui est midi, jusqu'au 9e, il a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être, je vous donne un petit devoir, relisez le psaume 22. Écrit par David, c'est quelque 700 ans avant la naissance de Jésus. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit du vinaigre. Et l'ayant fixé un ressaut, il lui donna à boire, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Et voici le voile du temple se déchira en deux. Si je me rappelle bien, 10 cm d'épaisseur, 6 mètres d'hauteur, 12 mètres de largeur. Et il dit, il se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entraient dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur. Et dire, assurément, cet homme était fils de Dieu. Quelle histoire! Et moi, je veux dire une chose, je crois que l'Église, en général, a fait de la croix le thème central. Certains d'entre vous portaient une croix autour du cou. Je pense que c'est pas mal comme bijou. Mais je ne sais pas si on réalise ce qu'on porte autour de notre cou. En France, nous avons eu la révolution. Et on a enlevé la tête de pas mal des gens. N'est-ce pas? À l'époque des Romains, ce n'était pas la guillotine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui portent des guillotines autour de leur cou. Mais la croix, ce n'est pas quelque chose de gentil. La croix, que c'était, je pense, la pire façon de tuer quelqu'un que les Romains avaient inventé jusqu'à ce moment. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne mourait, ouais, faute de respiration. Il était cloué à travers les mains et les pieds. Peut-être vous avez vu aux nouvelles, il y a des gens toujours aux Philippines qui le font crucifier chaque Pâques. Quelle horreur. Il ne comprend absolument rien. Personne ne peut prendre la place de Jésus. Jésus était le seul qui a pu payer pour les péchés de l'humanité. Mais c'était un mort absolument affreux. Pourquoi? Parce que la seule façon de pouvoir continuer à respirer, c'était de se pousser sur ses pieds qui sont cloués. Ouais. L'agonie était donc d'une intensité peut-être aucun de nous n'a jamais compris ou saisi. Mais Jésus était prêt à le faire. Mais nous avons fait quelque part, ouais, dans le christianisme, ouais, on a fait de la croix notre place centrale. Et aujourd'hui, je veux dire, peut-être nous avons fait une petite erreur. Je ne veux enlever aucune valeur de la croix, parce qu'aucun homme peut être sauvé sans passer par la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a encore certains qui croient, c'est par les bonnes œuvres que nous sommes dans une balance. Et si on peut seulement équilibrer les fautes et les erreurs que nous avons faites avec des bonnes œuvres, Dieu va nous accepter. C'est pas mal comme théorie. Ouais, mais la théorie est toujours basée sur l'ignorance du sujet en question. Dieu a dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Peu importe, vous avez commis un grand péché ou un petit péché. Le salaire du péché, qui est désobéissance envers Dieu, est la mort, séparation pour l'éternité avec Dieu. Amen. C'est pourquoi il a envoyé son fils payer votre dette, payer la nôtre. Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Avant de mourir, il a payé la nôtre, ouais, complètement, totalement, pour vous et pour moi. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Mais la croix n'est pas, ouais, je crois pas que c'est la base de notre vie chrétienne. Je pense que c'est le commencement de notre vie chrétienne. Mais Jésus n'a pris très, très peu de son temps, de son ministère, de parler de la croix. Nous allons voir, et on va parcourir quelques versets, que Jésus parlait constamment d'après 3 jours, il allait ressusciter. Donc, c'est un peu difficile, n'est-ce pas, faire un bijou d'un tombeau vide. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé. Mais moi, je crois que la résurrection et a une valeur encore supérieure à la croix. Parce que sans la résurrection, on peut dire à la croix, Jésus a payé et a perdu. Vous êtes d'accord? Et s'il a payé mais perdu, et il n'est pas ressuscité, nous non plus on ne va pas ressusciter. Au moins, je vous donne un deuxième devoir, relisez 1 Corinthiens 15. C'est un passage absolument magnifique sur la résurrection. Oui? Mais sans la résurrection, la croix n'a pas toute sa valeur. On va voir, on va parcourir quelques versets, d'accord? Ok, donc j'espère que je ne vous choque pas, des théologiens qui sont parmi nous ce matin. Amen? Mais je veux que nous portions notre attention sur la résurrection. Amen? Lisons quelques paroles de Jésus. On va commencer en Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu 12, 40 dit ceci. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, non, ce n'était pas une baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la sein de la terre. Amen. 3 jours, 3 nuits. Et après, Marc 8, 31. Je pense souvent, nous restons à la moitié de l'histoire. On lit la moitié d'un verset. On écoute la moitié des directions. Est-ce que ça vous est arrivé dans les directions, pas arrivé quelque part? Et je ne sais pas pourquoi, mais après qu'on a entendu les grandes lignes, tout d'un coup, notre tête part ailleurs et on commence, je ne sais pas, à marquer quelque chose. Et on arrive à 500 mètres de là où nous devons être et on est perdu. Ça vous est arrivé? N'est-ce pas? Et je trouve que c'est comme ça souvent dans les histoires, même dans les versets bibliques, on s'arrête au milieu au lieu de dire « ça va où ?» Et pour moi, ça va jusqu'à la résurrection et la vie avec Dieu à cause de cette résurrection. Marc 8, 31, vous y êtes? Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Amen. Marc 9, 9. Comme il descendit de la montagne, Jésus le recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Vous rappelez ce qu'ils avaient vu? Oui? Transfiguration de Jésus. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Amen. Il dit, les gars, vous gardez ça jusqu'après la résurrection. Amen. Regarde verset 31, Marc 9, 31, dit, quand il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. Je trouve que Jésus ne met pas l'action de comment il va mourir ou l'importance autant de la mort, autant du fait qu'il va ressusciter. Marc 10, 33 et 34. C'est pas une petite partie, c'est pas une chose qu'il a mentionné une fois et j'ai pris seulement quelques versets en Marc et Matthieu, mais tu retrouves en Luc et en Jean, tout, ouais, c'est la même chose. Il dit, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, crachant sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscite. Quelle est la différence, mes amis, entre le christianisme et toutes les religions du monde? Est-ce que quelqu'un sait? Jésus? La résurrection? Quelqu'un dit la résurrection? Pour moi, c'est la résurrection. Vous pouvez trouver le tombeau de tous les fondateurs de toutes les religions du monde. Mais Jésus est ressuscité. Il a promis de le faire, il l'a fait. Et si vous lisez en Corinthiens 15, quand je vous ai encouragé à le faire, il est écrit qu'à un moment, 500 personnes l'ont vu. On peut imaginer les choses. 500 personnes, je ne sais pas. Il dit, on va continuer, Marc 14, 58. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Tout le monde l'avait entendu dire. Ce n'est pas quelque chose qu'il a dit comme ça. C'est quelque chose qu'il répétait tout le temps. Amen. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Ouais, une chose en particulier, écoutez-moi bien. Ce que vous dites s'accomplira en bien ou en mal. Je n'arriverai jamais. Je suis d'accord. Je ne peux pas, je suis d'accord. Vous le dites, je ne peux pas vous aider. Mais pourquoi, pasteur, je n'arrive pas à recevoir? Parce que vous le dites. Amen. Pourquoi pas changer? Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Dieu nous a donné une bouche et une langue et des dents, même si vous les avez achetés, ils sont à vous. Ouais. C'est à vous de l'utiliser ça. Cette partie de notre être dirige notre chemin. Amen. Ce que vous dites devant vous, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, vous allez vivre demain en 5 ans et en 10 ans. Et ça veut dire que si vous n'aimez pas ce que vous vivez, arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez de vous excuser. C'est la faute de ceci, c'est la faute. Moi, j'ai fait une licence en psychologie. Vous savez, une chose que j'ai appris, c'est que nous voulons toujours mettre la faute sur les autres pour qu'on n'a pas besoin de se repentir. Amen. Mais moi, je dis, restons dans la détresse, restons dans la défaite, restons vaincus. Pourquoi? Quand vous pouvez vous relever, ouais, vous secouer, enlever la poussière et dire, en avant, j'ai une vie. ici sur terre, vous aussi, n'est-ce pas? Pourquoi pas vivre ça bien? Pourquoi pas déclarer devant nous, je serai une bénédiction, ouais, quand je pars, quand j'arrive, dans la ville ou dans les champs. Amen. Ouais, tout ce que je toucherai sera béni. Commence à dire que vous êtes, commence à dire que vous vivez en bonne santé. Commence à dire que les finances arrivent. Amen. Commence à dire merci. D'entendre les gens se plaindre. On a parlé de ça l'autre jour. Il y avait un Polonais qui est tombé dans un coma avant que le mur de Berlin a tombé. Ouais. Il s'est réveillé, donc 18 ans plus tard, ouais, il a dit, avant que je suis tombé dans le coma, et je me rappelle, il y avait des queues aux stations d'essence parce qu'il n'y a pas d'essence. Il y avait des queues dans les magasins parce qu'il n'y avait rien à manger. Il dit, aujourd'hui, tu peux prendre l'essence quand tu veux, les magasins sont pleins de choses, et tout le monde se plaigne. C'était le remarque qu'il a fait en se réveillant après 18 ans avec le changement de communisme. Et moi, je dis, mais quelle tristesse. Et ma femme me dit quelquefois, quand nous sommes dans la voiture, elle dit, « Sorry, John. » J'ai un poisson derrière ma voiture. Mais est-ce que les gens qui me voient pensent que je l'ai acheté de quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'ils voient que je suis chrétien? Matthieu 27, 63. On était là, n'est-ce pas? La résurrection, est-ce que c'est une réalité dans votre vie ou est-ce que vous êtes en train de pleurer autour de la croix? Écoutez-moi bien. Moi, j'ai rencontré les chrétiens et depuis les derniers 30 ans, ils n'ont pas bougé de la croix. Ils sont toujours en train de se repentir, de s'humilier, de pleurer sur leur sort. Mais vous savez, c'est triste à voir. Moi, je suis passé par la croix. Si, quand je pêche, je retourne à la croix et je fléchis le genou et je fléchis mon cœur et je demande pardon et je suis sincère parce que je sais que si je ne suis pas sincère, je ne vais pas partir justifié. Quand c'est nécessaire, je retourne à la croix, mais je vous dis, ce n'est pas ma demeure, ce n'est pas où je me loge et Jésus non plus. Il est monté sur la croix, il est mouru sur la croix, mais il est ressuscité. Amen. Peut-être pour certains de vous, ça, c'est un peu choquant ce que vous dites. Mais moi, je veux que vous vivez la vie de la résurrection. Et je sais que certains vont venir m'apporter des versets. Oui, mais la Bible dit qu'il faut porter sa croix. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tous ces versets. Mais on va voir d'autres versets aussi. Qu'est-ce que je dis? Matthieu 27, 63. Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Imposteur a dit. N'est-ce pas? Regardons Marc 16, versets 5 et 6. On fête la résurrection de Jésus aujourd'hui. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Vous dites, mais comment est-ce que vous le savez? Parce que je l'ai invité un jour d'entrer dans ma vie. Et ma vie a changé à cause de cela. Amen. C'est pourquoi je sais. Moi, j'ai rencontré un homme un jour dans un bus. J'étais avec Laura en train de traverser la ville de Birmingham. Et je ne sais pas, mais Laura et moi, on était en train de parler de quelque chose. Ça ne le concernait pas. Et à un moment, il nous a interrompu. Il dit, je ne crois pas à l'existence de Jésus. Donc, j'ai trouvé que c'était très impoli. Surtout qu'en Angleterre, on ne parle pas dans le transport en commun. Tu peux s'asseoir à côté de la même personne pendant 5 ans. Vous ne parlerez pas. Vous ne saurez jamais son nom. C'est bien triste. Je suis ravi de vivre en France. Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut me dire que mon sauveur, mon Seigneur n'existe pas? Et je ne savais pas, mais c'était sorti d'ici. Ce n'était pas quelque chose auquel j'ai pensé. Je dis, ta mère n'existe pas. Ah non, mais tu ne penses pas à quelque chose comme ça. Au moins, si tu le dis, tu n'oserais pas le dire. Si j'avais pensé avant de le dire, je n'aurais pas dit. Mais c'était sorti comme ça. Et ce gars était fou furieux, vous imaginez? Oui, shocking, il est choqué. Et donc, il a commencé, il dit, mais comment tu peux dire là, là, là? J'ai dit, oui, mais je ne connais pas ta mère, je n'ai jamais vu sa mère. Comment est-ce que tu me dis que ta main, je ne sais pas, tu me dis comment ça va, n'existe pas. On est descendu, c'est notre arrêt, donc quelques, plus tard. Et il descend avec nous. Et on traverse la ville et il est en train de disputer avec moi. Ça lui a tellement vexé. Mais de quel droit a-t-il me dire quelqu'un qui a influencé ma vie, qui continue de toucher ma vie, qui m'a béni au-delà de n'importe quel autre être humain a pu me bénir, qui n'existe pas. Moi, je n'acceptais pas cela. Peut-être vous l'acceptez. Mais Jésus vit en moi. Amen. Et il veut vivre grand en vous. Marc 16, 5 et 6, il dit, donc c'est les femmes qui vont pour, au tombeau. Et l'entrée dans le sépulcre, vint un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Ils lui dirent, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Vous croyez aux anges? Moi, je rencontre beaucoup de gens. Ils croient aux démons, ils croient à la sorcellerie, ils croient à la magie noire, ils croient à tout ce qui est maléfique. Mais moi, je dis, si le diable est tellement fort, vous avez seulement besoin d'allumer la télévision le soir et regarder un programme et vous allez voir combien le monde croit que le diable est fort. Oui? N'est-ce pas? Pourquoi il n'y a pas une confusion totale sur la terre, donc? Pourquoi il n'y a pas des gens en train de tuer? Oui, on est choqués en France. Et on devrait être quand on entend la mort d'un enfant, n'est-ce pas, dans sa famille, ou la mort de quelqu'un, n'est-ce pas, tué pas. On est étonné par ça. Si le diable est tellement fort, pourquoi tout le monde n'est pas en train de s'entretuer comme à la télé? Vous regardez un film et il faut compter les morts. Il y a des cadavres partout parce que le diable est fort et grand, n'est-ce pas? Non. Dieu règne. Et l'amour de Dieu touche le monde. Et ce message de l'Évangile a touché le monde beaucoup plus que nous puissions comprendre. Amen. Il nous a dit même d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous persécutent et de prier pour eux. Amen. Cet Évangile est puissant. Mais il faut que nous vivions la résurrection. Il faut qu'on vive la vie de Dieu. Amen. Quelques versets encore. Ça vous va? 1 Corinthiens 15, comme je dis, devoir, vous le lisez tout, mais je vais lire deux versets. 1 Corinthiens 15, 20 et 21. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. S'il y a des prémices, est-ce qu'il y aura des seconds? Des prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Très, très important. Jésus est notre exemple. Tout le monde dit exemple. Si on pouvait comprendre cela, que Jésus est venu sur terre vivre en tant qu'homme, on peut commencer à savoir comment nous devrions vivre. Éphésiens 5, 1. Quand les gens nous disent, tu te prends pour qui? Vous avez seulement besoin de faire quelque chose au nom de Jésus. Et les gens disent, tu te prends pour qui? Hein? De quel droit avez-vous faire cela? Ouais, à l'époque, les hommes de Dieu étaient arrêtés par la police parce qu'ils guérissaient les malades. Ouais. Beaucoup d'hommes de Dieu, dans le siècle passé, étaient mis en prison parce qu'ils étaient en train de pratiquer la médecine sans être médecin. Pas mal, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a assez de preuves pour vous convaincre de ça aussi? Vous mettre en prison? Les gens sont guéris après votre passage? Écoutez bien, Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de qui? De Dieu comme des enfants bien-aimés. Comment est-ce possible pour nous de devenir imitateurs de Dieu? Ouais. C'est une question importante, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Moi, je pense que c'est à cause de la résurrection. Encore quatre versets. 1 Jean 4, 4. Il y a des 4, 4 dans la parole de Dieu, bien meilleur que les 4, 4 sur la rue, dans la rue. Oui? Parce que certains disent qu'ils aiment le Porsche Cayenne, d'autres disent j'aime le RAV4, d'autres disent moi j'aime ceci et ça. Ça, c'est des 4x4, mais Philippiens 4:4, c'est bien meilleur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et 1 Jean 4:4, vous le connaissez celui-là? Il dit, vous êtes prêts? Vous, petits-enfants, est-ce qu'il y a des petits-enfants ici? On est nos enfants de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, je vous ai parlé de l'importance de vos paroles. Combien de fois nous avons dit, mais je suis petit, je suis faible, je ne peux plus. Oui, mais vous regardez qui? Votre nombril. Vous regardez à vous. Oui, la Bible nous dit de lever les yeux et de regarder à Jésus. Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, n'est-ce pas? Bien sûr, si on regarde sur nous, l'obstacle devant nous est plus grand que nous. Le problème est plus fort que nous, n'est-ce pas? Mais pourquoi se regarder à nous? Amen. Il faut qu'on lève la tête. Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Amen. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand. Dis ça avec moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et j'ai pensé tout à l'heure que Pasteur Peter allait piquer ma prédication parce qu'on arrive là où je voulais arriver. Romains 8, 11. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts pour ceci, mais ça doit, je veux utiliser ce terme, je ne sais pas si on va exploser, ce n'est pas bon, parce que normalement, il y a des destructions, mais ça doit envahir tout votre être. La réalité de ceci, et si jamais ça vous est arrivé avec un verset biblique, voilà comment vous le fassiez. Vous le marquez sur un bout de papier. Et chaque fois que vous mettez dans votre poche, et chaque fois que vous en pensez, tant que vous n'avez pas mémorisé, et mémoriser ne suffit pas. La parole dans notre tête renouvelle nos pensées, mais la foi ne se produit pas dans notre tête. La foi se produit où? Dans notre cœur, n'est-ce pas? Oui? Très, très important cela. Donc, vous le lisez, vous le mémorisez, c'est bien, mais vous continuez à le dire, à le dire, à le dire. Si vous avez besoin de le dire 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, jusqu'à qu'un jour vous dites, c'est vrai! Beaucoup de gens, mais comment est-ce possible d'être tellement convaincu de quelque chose? On est convaincu de quelque chose parce qu'on l'a... On a appris et on a travaillé et encore et encore et encore et encore et encore à l'école jusqu'à ce que nous sommes fatigués, n'est-ce pas? On refait et on revient chaque année, on revient sur les mêmes bases et c'est toujours la même. 2 et 2 font toujours 4. Ça fait jamais 5, ça fait jamais 3. On est convaincu, n'est-ce pas? Oui, même sous la torture, on va toujours dire que 2 et 2 font 4, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'on nous a harceler avec ça, inculquer cela, ça devient une réalité. Vous êtes d'accord? Il faut faire exactement pareil avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes prêts? Oui, il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? » Je peux vous poser une question? Est-ce qu'il habite en vous? Si vous dites, « Je ne sais pas », je dis, « Invite-le. » Si vous n'êtes pas sûr, invite-le. Certaines personnes ne sont pas sûres, mais je ne sais pas si Dieu désire que je prospère. Je ne sais pas si Dieu vient au travail avec moi. Mais invite-le. Dis, Saint-Esprit, viens avec moi au travail. Vois combien la journée va changer. Les bêtises que vous allez éviter. C'est extraordinaire combien de bêtises on peut éviter dans une journée quand on demande au Saint-Esprit de travailler avec nous. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Ok, on parle du miracle le plus puissant qui s'est jamais fait sur la terre, d'accord? Il n'y a pas un autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus est dans le tombeau, au niveau de son corps, son esprit descend dans les régions inférieures de la terre, dans l'enfer, il a le poids du péché de toute l'humanité sur lui. Et ce mot avec les miens, ça m'aurait gardé dans le tombeau. Les tiens t'auraient gardé dans le tombeau. Vous comprenez? Le plus grand miracle de toute l'éternité, c'est que Jésus a vaincu tout cela. Amen. Il était en combat avec le diable et les démons de l'enfer et il a triomphé. comprendre, il parle de cet esprit-là. Si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre la mort habite en moi, habite en vous, ça devrait quand même changer quelque chose, n'est-ce pas? Ah, oh, mais je suis pauvre, mais je suis vaincu, mais je ne peux pas. Personne m'aime. Pasteur Peter nous a donné une vérité ce matin, je ne sais pas si vous l'avez saisi. Il a dit que Jésus intercède pour nous. Mais tu sais, pasteur, personne ne pense à moi, personne ne prie pour moi. Quel menteur! Vous êtes menteur si vous croyez cela. Hein? Ce n'est pas possible. Jésus prie pour toi. Tu as besoin de quelqu'un d'autre? Je suis sûr que tu trouveras qu'il y a d'autres personnes qui prient pour toi. Mais déjà, Jésus, il prie pour toi. Ça va. Amen. Mais nous avons permis cette fausse humilité. Moi, je ne suis rien. Tu vois, moi, je ne suis qu'un ver de terre. Hein? Un pauvre pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Non. Non, les pauvres pécheurs ne sont pas sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes des riches chrétiens sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Il dit, si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité, c'est bizarre, n'est-ce pas? Il répète, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi, quoi? La vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mais vous savez, avec l'âge, c'est normal, n'est-ce pas? C'est normal, les bobos, il faut mourir de quelque chose, n'est-ce pas? On entend les personnes qui prennent un peu d'âge tout de suite, disent, mais c'est normal. Pas selon la Bible, ce n'est pas normal. Les patriarches, oui, ils se sont endormis après avoir vécu une heureuse vieillesse et après être rassasiés. Oui. Et moi, je compte mourir comme eux. Amen. Mais l'esprit vivifie mon corps mortel. Amen. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit d'être un imitateur de Dieu, de faire les mêmes choses que Jésus. Comment est-ce que je vais faire ça? Je ne peux pas, moi. Mais lui en moi, nous pouvons. Amen. Comprenez, quand vous invitez Jésus d'entrer dans votre cœur, vous n'êtes plus seul. Plus jamais, aucune seconde de votre vie, vous êtes seul. Mais il faut comprendre qu'il n'est pas venu tout pauvre dans votre vie. Oui? Il n'est pas venu à 0,05% de l'effectif. Oui? Il est venu entier en vous, pour vivre en vous, pour vivre à travers vous, amen, pour bénir l'humanité. Vous avez des rêves? Comment est-ce que vous allez arriver à ces rêves? Comment? Par vos propres moyens, par votre volonté de faire? Non. Par le plus grand qui habite en vous. 1 Corinthiens 3, 16, encore deux versets pour enfoncer le clou. Est-ce que ça va? Mais prends ce verset, Romains 8, 11. Méditez cela jusqu'à que vous vous réveillez le matin, vous réveillez pendant la nuit. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. L'esprit. Hein? Qui lit la nourriture de la santé? Oui? C'est quelque chose que j'aimerais que chacun de vous vous procure et que vous lisez tous les jours. Ouais. J'étais en train de lire cette semaine, depuis que c'est sorti, nous lisons, je pense, toutes les ans, presque tous les jours, une histoire d'une femme qui s'appelait Lillian Beale Yeomans. Elle était médecin, elle avait le tuberculose et elle était guérie par la puissance de Dieu et elle a donné toute sa vie après pour soigner les malades avec la parole de Dieu. Elle et sa sœur a ouvert ce qu'ils appelaient une maison de guérison et ils recueillent les gens, uniquement les gens, oui, pour qui les médecins ont dit qu'il n'y a plus aucun espoir. Donc ils les reçoivent dans leur médecin, je pense qu'il y avait quatre chambres ou quelque chose, et quand la personne arrivait, la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait sa Bible et tous les versets sur la guérison divine étaient soulignés. Vous devez faire ça aussi dans votre Bible. Oui. Et pendant 2-3 heures, elle lisait tous ces versets. Et finalement, elle arrivait, elle dit, Deutéronome 28, 63 dit que toute maladie est la malédiction de la loi. Mais Galates 3, 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il dit, je veux que vous dites cela, oui, chaque moment que vous êtes éveillé. Et la dame lui dit, je ne comprends rien. Il dit, c'est pas grave, dites-le. Donc cette femme le dit, et le lendemain, donc elle dort la nuit, le lendemain elle dit, tu sais, j'ai pas dormi la nuit, j'ai dû dire ça 10 000 fois, je ne comprends rien. Et Lillian lui dit, continue à le dire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont paresseux, ils veulent qu'on leur paye pour rien faire. Mais vous savez, le monde ne fait pas comme ça. Oui? Vous voulez être payé, travaillez. Amen. Et travaillez votre foi si vous voulez les résultats que Dieu promet. Et elle a continué à le dire. Donc, Liliane a dit, on a continué, on a fait les tâches ménagères dans la maison. Et tout d'un coup, on entend cette femme qui est en train de crier et d'hurler. Oui, oui, j'ai été rachetée, oui, de la malédiction de la loi. Elle avait tuberculose. Oui, la tuberculose est une malédiction de la loi et je suis guérie de la tuberculose. Et donc, elle entre dans le hall de la maison et voit la femme en train de courir d'un bout en bout, oui, sur l'étage, totalement guérie. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a dit, sans rien comprendre, tout d'un coup est descendu dans son cœur. C'était devenu une réalité. Son cœur l'a pris, la foi l'a pris, et elle était guérie. Il faut travailler la parole. Il faut travailler avec la parole. Ouais, on ne peut pas avoir notre christianisme comme un loisir. Tu vois, une ou deux heures dimanche matin. Ouais, il faut qu'on vit avec Dieu tous les jours. Ouais, 24 heures. Sur 24, 7 jours sur 7, je vis avec Dieu. Et vous savez, quand c'est le moment pour faire les loisirs, il viendra jouer au foot avec vous. Ouais? Il viendra au cinéma avec vous. Si ce n'est pas un bon film, ne l'emmène pas avec vous. Va voir un bon film. Amen. Parce que certains disent, mais je ne peux pas emmener Jésus là. Ne va pas donc. Mais il veut vivre pleinement avec vous. Il veut que votre vie soit remplie. 1 Corinthiens 3:16. Il dit, ne savez-vous pas, évidemment les chrétiens de l'époque ignoraient des choses, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Quel esprit? Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus a dit en trois jours, oui, je ressusciterai. Oui. Comment c'est fait? Par l'Esprit de Dieu. Dernier verset. Philippiens, c'est très dangereux en tant que prédicateur de dire cela. Oui. Philippiens 4, 13. Vous connaissez ce verset? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de faire tout par Christ? Par l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je ne sais pas, mais Dieu avait ce plan. Ça semble fou, n'est-ce pas? Ouais. Il envoie son Fils unique, sachant qu'on allait le prendre et le tuer. Mais il savait que si son fils mourait pour le péché de l'humanité, ouais, il sera une semence pour qu'une multitude de fils puisse naître. Amen. Et au lieu d'avoir un Jésus qui parcourt la terre, qui était limité, ouais, on sait qu'il est descendu en Égypte pour échapper à la mort, ouais, après sa naissance. Mais sinon, on ne sait pas s'il est parti d'Israël. Il a resté dans un tout petit endroit pendant toutes ces 33 ans. Amen. Il n'est pas allé en Amérique. Il n'est pas allé en Australie. Il n'est même pas arrivé ici en France. Ouais. Mais Dieu avait un plan. Que de ce seul fils, il y aura une multitude. Amen. Et aujourd'hui, on dit, dernier chiffre, nous sommes plus que 600 millions de gens qui croient comme vous et moi. Amen. Qui croient que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour et que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous parlons en langue et 600 millions de personnes, et ça grandit tous les jours, croient que ça c'est normal. Amen. Donc si vous pensez que vous faites partie d'un petit groupe, oui, oubliez l'église locale, oui, et pensez au corps de Christ. Parce que c'est en train de grandir. Et je vous dis, nous sommes au seuil de quelque chose qui va se passer dans le monde francophone. Parce qu'on a l'impression que jusqu'ici, oui, il y avait des obstacles et des murs pour empêcher ce qu'on voit à travers le monde. J'ai parlé de ça, je pense, la semaine passée, oui, il y a deux semaines. Oui, on a vu ça en Amérique du Sud, on a vu ça en Corée. Moi, j'étais en train de regarder en Albanie. Quand nous étions à l'école biblique, on a prié avec un jeune homme qui avait l'Albanie dans son cœur. Donc, à l'époque, donc en 68, on a fermé l'Albanie et on a déclaré le premier État athée du monde. Et à l'époque, on a prié avec notre ami et on a cru qu'il était un peu fou. Ouais, ouais, on ne savait même pas s'il y avait un chrétien en Albanie. L'église était illégale. Tu avais une Bible, tu pouvais être mis à mort même. D'accord? Quand le mur a tombé, les chrétiens sont allés faire les campagnes d'évangélisation en Albanie. Il y a une église florissante. Ouais, en Albanie, j'étais sur un site, ouais, parmi plein de sites. Hier soir, en train de regarder ce que Dieu est en train de faire en Albanie. Mais c'était une impossibilité. Donc, il y a 25 ans. Ouais. Et le monde francophone est prêt. Hallelujah. Est-ce que vous allez permettre cet même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts de vivre en vous, de vivre à travers vous, de bénir le monde? Levez-vous, on va prier. Hallelujah. 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 Tu peux remettre Romains 8, 11 là? Je veux qu'on garde ça devant nous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts a aussi la vie à vos corps mortels. Est-ce que l'esprit de Dieu est bienvenu dans votre vie? Est-ce que vous le dites? Dis ceci avec moi, Seigneur. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour payer pour mes péchés. Je crois que tu étais enseveli. Et je crois que le troisième jour, tu es ressuscité, ayant vaincu le diable, la mort, les démons de l'enfer. Et je crois, en montant au ciel, en étant assis à la droite du Père, tu as envoyé ton esprit, cet même esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts. Tu l'as envoyé pour moi. Tu l'as envoyé pour l'Église, pour le corps de Christ. Et je t'invite, Saint-Esprit, cet même esprit, cet esprit de force habite en moi. Je te donne libre cours. Tu es bienvenu dans ma vie. Je veux ta puissance. Je veux ta vie. Je veux ton pouvoir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah. Ko osi imengwa eche. Kala mingia sopo pratengi mae. Hallelujah. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps mortel puisse être touché par la puissance de Dieu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Il faut le croire, il faut le déclarer. Il faut dire qu'il n'y a aucune limite pour Dieu en moi. Amen. Hallelujah. Les choses que j'ai vues comme obstacles ne sont plus d'obstacles. Don't say, I want to do something else. We got eggs. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Il faut que vous regardiez ces obstacles en face et vous commencez à le parler. Jésus a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous avons prié Dieu à propos de nos obstacles quand lui nous a dit que c'est à nous de déplacer les obstacles. Amen. Certains de vous avez dit, mais pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? Excusez-moi, il n'a rien fait. Il a tout fait. Il attend que tu fasses quelque chose. Oui. Moi, j'entends les gens dire, mais pourquoi Dieu ne bouge pas? Oui, c'est lui qui est là-haut en train de dire, pourquoi tu ne bouges pas? Amen. C'est à nous de nous accorder avec Dieu, pas à lui de s'accorder avec nous. Il a envoyé Jésus. Amen. Il a fait crucifier. Merci Seigneur. Hallelujah. Moi, je suis convaincu, certains de vous, vous allez, ça va être peut-être après le repas du midi ou ce soir, tout un coup, tu allez un instant, qu'est-ce que John a dit? Cet même esprit qui a ressuscité Jésus habite en moi. Moi, je crois pour un esprit de révélation. C'est ce que je suis en train de prier à ce moment, pour moi, pour nous, pour vous. Oui, que vraiment une révélation de la parole de Dieu. Pas une, hein, c'est gentil ça. Ouais. Oh, je comprends. Non, une révélation que ça exige un changement dans notre comportement, un changement dans notre pensée, un changement dans nos paroles et avec des résultats. Amen. Moi, j'ai vu tellement de résultats, ouais, mais je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Amen. On va faire quelque chose de très amusant, si vous êtes d'accord. D'accord? C'est bon? Est-ce que quelqu'un peut sortir les œufs de Pâques? Oh, ils sont déjà là. Oh, regarde ça. Donc, je ne sais pas combien d'enfants on a là. Est-ce qu'on a des sacs? Rebecca, est-ce que tu as des sacs? Ah, voilà. On a des œufs de... Oh là, il y a des œufs de Pâques. Aussi, vous avez trouvé sur votre chaise un petit marque-page. Ça, c'est un cadeau. Oui. Donc, publicité pour notre centre de formation biblique. Si ça vous intéresse, va sur le site. Et aussi, un nouveau livre qui est sorti. Donc, pour certains, c'est un ancien, mais c'est totalement retraduit, remanié, nouvelle taille. Et c'est un livre extraordinaire. Tu avais quelque chose à dire à propos de ce livre, Rebecca?
Donc, pour vous tous, cette semaine et la semaine prochaine, le livre de base, le prix de base est de 20 euros. Mais pour cette semaine et la semaine prochaine seulement, pour vous, il est à 10 euros. D'accord? Donc, prenez l'opportunité de saisir, parce qu'on veut vraiment que chacun d'entre vous puisse saisir ce message de la foi et d'aller de foi, de gloire en gloire et de victoire en victoire tous les jours. Amen? Donc, vous pouvez voir Omer à la table de livres après.
On peut acheter combien? Alors, vous pouvez acheter autant que vous voulez. C'est des cadeaux absolument extraordinaires, d'accord? Vous allez trouver le prix sur le dos, c'est 20 euros. Ouais. Ce livre, on a offert, je ne sais pas combien, c'est génial. Donc, ce qu'on va faire, chacun qui veut, vous venez prendre quelques œufs pour cacher, donc, pas sur l'estrade, d'accord? Seulement dans l'enceinte ici, pas derrière, pas dans la salle des enfants. Oui, donc il y a des enfants plus grands, plus petits. S'il vous plaît, si vous pouvez vous rappeler où vous les avez mis, parce qu'à la fin, on ne veut pas qu'ils fondent pendant la semaine, d'accord? Donc, venez ceux qui veulent s'amuser, viens. Voilà. Et vous allez les cacher, d'accord? Il y a des grands, il y a des petits, il y a encore là? J'ai besoin d'aide ici, s'il vous plaît.
Pas sur l'estrade,
non? Non, non, ça, on va garder pour les adultes. Oui, on va garder ça pour les adultes. Ça, tu peux.
Ah, nous, le petit, alors.
Hein?
Nous, le petit.
J'ai encore... Venez, 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 il y a beaucoup ici. Venez nous aider. Oui, 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 oui. OK, did you have something?
Not really, fine. OK.
Encore, 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 il faut le cacher. Je ne peux pas les donner à même, hein? c'est pas amusant. On va avoir un pour chacun de vous aussi, d'accord, à la fin, si vous êtes sages. Tu veux prendre... Nico. Voilà. OK, vous me dites quand vous avez tout caché, vite, vite, vite. C'est pas l'église traditionnelle, je sais. Hervé, ferme la porte là pour que... Hein? Those are for the adults. Non, non, ça c'est pour les adultes. OK, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Venez vous asseoir. On va faire entrer les enfants. On va les expliquer les règles de jeu. Non, ça c'est pour les adultes. John, would you like to ask them? Are they free to come? Joyeuse Pâques, tout le monde. Hallelujah. Nous pensons, nous avons deux invités donc les deux mois prochains. Non, ce mois-ci, le 25 avril, ne ratez pas. Michel et Edith Pett seront avec nous. Ça va être un super temps. C'est un évangéliste français. Et aussi le 13 juin, nous avons Audrey Mac qui revient. Et on a pensé à manger ensemble après la célébration, d'accord? Comme ça, les gens peuvent lui poser des questions. On va parler des missions. Est-ce que les enfants veulent venir ici devant? Tous les enfants ici devant, s'il vous plaît. On va voir combien ils sont beaux. Venez, venez, venez vite. Ouais, non, non, pas sur l'estrade, ouest là. Patricia? Non, je pense pas. Are there any more? John, are there any more? Ah, non, non, non. Attends, est-ce qu'il y en a d'enfants? C'est tout? John, are there any more? Viens. Oh, OK, donc, les enfants... Non, 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 c'est pas facile à trouver. Can you give them out? Voilà, on va vous donner un petit sac. Voilà, donc, il y a... Voilà, comme ça, vous allez pouvoir mettre les œufs que vous trouvez dans le sac. Donc, il y a les règles, n'est-ce pas, messieurs, dames? On ne mange pas les œufs maintenant. D'accord? C'est pour ramener à la maison, peut-être après le repas, c'est mieux? C'est mieux, d'accord? Et quand on a fini, on brosse les dents, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas que les dents tombent. D'accord? OK, est-ce que...
Quelqu'un pour lui
Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Tu veux? Voilà. Okay. Tu prends le sac. Voilà. Non, attends. Donc, est-ce qu'on a... Peter, tu es parti. Là, on a besoin de musique. Can we put some music on? OK, vous êtes prêts? Un, deux, trois, partez! You didn't tell me. Doesn't matter. Peter, are you standing at the door? Sébastien, tu peux donner ça à Peter? Donne à Peter. À Peter, il peut donner aux gens. You want to go to the door?
Because I'm cold.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aides, ouais, vas-y. OK. Une fois que vous avez tout cherché, vous revenez, d'accord? Est-ce qu'ils ont tout trouvé? Est-ce qu'il y a encore que vous avez caché?